Je veux aussi donner donc un peu de courage aussi à mes étudiants qu'ils font quelque chose de normal. On n'est pas dans une économie de mafia, c'est tout à fait normal. Moi, je dis toujours, il y a des Unternehmensberater, des consultants. Dans l'économie, on a des consultants et personne ne dit qu'il ne faut pas ou bien qu'il nous dérange. Et moi, je dis, le lobbyiste, en principe, c'est un consultant pour les questions politiques.
Lobbying au Parlement. Des élus sous influence. Véronique Marty, Laurence Di Félix.
Hier, dans le reportage de Vacarme, nous avons mis nos pas dans les pas des lobbyistes qui s'activent au Palais fédéral. Parmi ceux que nous avons rencontrés, la plupart sont des professionnels du lobbyisme. Ils connaissent les ressorts du métier, ils savent comment présenter un objet, le simplifier, le rendre convaincant. Ils savent qu'ils ont peu de temps pour séduire et doivent être persuasifs. Le lobbyisme est en train de devenir un métier. D'ailleurs, il existe une association des lobbyistes, la SSPA, qui fixe à la profession quelques limites déontologiques et s'engage pour plus de transparence dans les mandats. C'est un groupement professionnel qui milite aussi pour faire entrer dans la loi sur le Parlement le lobbying comme un instrument démocratique reconnu. Nous nous rendrons tout à l'heure à un événement que la SSPA organisait en décembre pour ses membres. Mais tout de suite, nous partons à l'école, parce que la professionnalisation du lobbying se matérialise aussi avec la création d'une formation, un CAS, un certificat avancé d'études en lobbyisme. C'est un jour d'examen, nous avons rendez-vous à la gare de Neuchâtel avec Daniel Grassi-Pironne qui s'apprête à passer son oral. Voici un métier comme un autre. Un reportage de Véronique Marty, réalisé par Didier Rossa.
Ce matin, je vais passer mon premier examen après 25 ans.
Vous avez eu envie de retourner sur les bancs d'école. Pourquoi ?
Je suis un passionné de la construction en fait, des décisions politiques. Et puis ça m'intéressait finalement de comprendre qu'est-ce qu'on mettait derrière ce mot lobbying. Puis de voir finalement si c'est quelque chose de positif ou de négatif. On a souvent finalement une étiquette négative. Et puis ça m'intéressait finalement d'approfondir cette question.
Il est tôt, mais les élèves arrivent déjà.
Ah, c'est des lieux qui sont dynamiques, n'est-ce pas, ça bouge.
Donc votre examen, c'est quelle salle?
C'est 354, okay. Donc troisième étage.
Ça a changé un peu votre vision du lobbying, cette formation que vous avez suivie?
Alors complètement, parce que finalement c'est pas le mot lobbying qu'il faut tracer, mais c'est finalement se rendre compte que il est nécessaire pour un bon fonctionnement d'une démocratie et puis d'un état de droit.
Et ils ont réussi à vous convaincre?
Je sais pas, je me laisse pas convaincre aussi facilement que ça. C'est plutôt mon apprentissage, finalement, en écoutant, en lisant, en renseignant, je me rends compte que c'est une nécessité. Par contre, oui, je suis critique sur certaines choses qui nous ont été présentées.
Comme quoi?
dans le domaine de la santé. Où, bah, c'est vrai que la question finalement de la limite entre le processus législatif et puis l'intervention finalement, est-ce qu'elle est juste? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est normal?
C'est-à-dire l'influence des lobbyistes dans un processus est-ce législatif.
Alors, c'est vrai que vu de l'extérieur, bah, c'est vrai que ça peut un peu choquer.
Qu'est-ce qui était choquant?
Mais je pense que c'est un peu l'image que tout le monde a en fait. C'est qu'on a des élus pour prendre des décisions. Puis finalement, il n'y a pas à y avoir d'intervenants externes, en fait, qui viennent influencer ces décisions-là.
Mais c'est le contraire de ce que vous m'avez dit
avant. Exact. Oui, tout à fait. Mais instinctivement, en fait, je me suis retrouvé de nouveau dans le citoyen lambda qui voit quelque chose se passer et puis qui se dit, mais c'est pas normal. Puis en fait, quand j'ai repris un petit peu mon rôle de personne en formation, on va dire, en réfléchissant un petit peu plus loin, ben c'est vrai que je me suis rendu compte que le fait d'écouter finalement d'autres possibilités ou d'autres avis, en fait, on peut faire changer naturellement la position d'un gouvernement, d'une autorité quelconque. Et puis, dans le cadre de la formation, on a aussi été amené à participer à une formation de la Société suisse des affaires publiques. Et puis, en l'occurrence, il y a un compte de déontologie, il y a une formation à l'attention des membres qui est obligatoire pour les membres qui adhèrent à cette association. Et puis, je crois que pratiquer correctement, je crois que c'est une activité qui est souhaitable et nécessaire.
Je vous vous laisse vérifier l'heure.
Oui, oui, c'est tout bon.
C'est à 8h15, c'est ça?
C'est 8h15.
Bonjour, Thomas. Bonjour. Ah, tout bien, tout bien.
Oui, sir.
C'est Monsieur Bill. Voilà, là, on va sortir.
Pour se diriger vers l'hôtel Bellevue.
Juste à côté du palais fédéral.
Alors voilà, comme tout, les sessions, deuxième mardi de chaque session, la SSPA tient son événement.
Et la SSPA, c'est la société suisse de public affaires, des affaires publiques, voilà. Plus simplement dit, c'est la fêtière des lobbyistes.
Oui, c'est pas une fêtière, hein, c'est une association des lobbyistes qui travaillent sur Berne et qui sont mis d'accord sur certaines règles et qui sont mis ensemble en association il y a 20 ans pour introduire dans la loi sur le Parlement le lobbying comme un instrument démocratique normal.
Et donc ce matin, enfin ce midi, là, parce qu'il est presque midi, on entend les cloches sonner à Berne, là on est dans la Bundesgasse, qu'est-ce qui va se passer, Reto Wiesli?
Donc nous, on propose aux membres, une fois par session, de se rencontrer. On choisit un peu les thèmes, on change, une fois c'est énergie, une fois c'est santé. De temps en temps, on arrive à inviter un conseiller fédéral sur quelque chose qui est d'actualité dans les mois qui suivent.
Et là, aujourd'hui, le thème choisi, c'est justement le lobbying.
Voilà. Comme c'est le début de législature, on invite traditionnellement les nouveaux parlementaires sur le podium, donc ceux qui siègent pour la première fois. Et puis là, c'est aussi le moment de leur montrer qui on est et ce qu'on fait. Donc là, le thème, c'est vraiment, est-ce qu'avec ce Parlement, le lobbying reste la même chose? Est-ce que ça change? Qu'est-ce que sont les challenges qui viennent sur ce Parlement? Ou qu'est-ce qui les attend de la part des lobbyistes?
Donc c'est vous, Reto Wiesli, qui allez prendre la parole en tout premier. Vous avez préparé votre discours. Vous ne souhaitez pas que j'enregistre ce moment, mais alors, en deux mots, l'essence de ce discours.
Ben, il faut quand même montrer qu'il y en a plusieurs qui sont considérés comme lobbyistes. Hein. C'est tout d'abord les parlementaires, après il y a l'administration.
Il y a plusieurs catégories de lobbyistes, c'est ça?
Si vous voulez. Hein. Ouais. Nous, on se considère comme les lobbyistes, tout court, parce qu'on ne fait que ça.
En fait, ça se professionnalise grâce à votre association et à d'autres choses aussi. Je pense à une formation qui existe. Puis vous me parlez d'une journée de formation pour vos membres. Est-ce qu'on est dans une logique de professionnalisation du lobbying?
Je crois qu'on est dans une logique de professionnalisation tout court. Vous voyez, la même chose au Parlement. Le milicien en soi, il n'existe pas au plus depuis longtemps. Et donc, les représentants des intérêts, ils font de la même manière. Ils travaillent professionnellement. Vous avez les agences qui sont développées. Et vous avez de plus en plus de boîtes ou d'associations de métiers qui emploient eux-mêmes leurs lobbyistes ou leurs responsables affaires publiques.
Voilà, on est arrivé devant le Bellevue.
Je suis là d'abord.
Allez-y. Il y a plusieurs événements aujourd'hui, apparemment.
Toujours.
J'ai vu qu'il y avait les boulangers-confiseurs aussi à la même heure, ici au Bellevue.
Voilà. Ce qui est un peu bête, parce que...
C'est une séance pour les parlementaires.
Parce que leur lobbyiste est aussi lobbyiste chez nous.
Ah, il ne pourra pas venir.
C'est plutôt qu'il nous fait concurrence en tant que membre chez nous.
On verra si les parlementaires préfèrent les boulangers-confiseurs aux lobbyistes.
Ce qu'ils ont comme cadeau.
Ah, salut Barouna.
Salut. Bien et toi?
Ah ouais. La fine équipe du lobbying Rai Route Vosgenève est presque constituée.
Raconte-toi, comment tu fais du lobby au Palais fédéral? Parce qu'en fait, on n'en a jamais parlé.
Moi, ça fait déjà, je pense, presque plus de 15 ans que j'ai une carte d'accès au Palais fédéral. J'ai donc connu plusieurs parlementaires qui m'ont attribué cette carte.
Mais ça t'est utile, toi, d'aller au Parlement
Quand j'ai reçu cette carte, je travaillais pour un autre employeur, la première. Et puis c'était pour suivre notamment les questions de politique des transports en général et de politique routière en particulier. Alors, ça permettait de faire entendre la voix romande, de l'économie romande, dans ces questions-là. Et puis en plus, c'est un moyen pour moi d'entrer en contact avec d'autres parlementaires sur d'autres objets qui intéressent le centre patronal.
Donc vous êtes
Patrick Éperon du centre patronal à Lausanne.
Et là aussi, un jour comme aujourd'hui, la manifestation à laquelle on est en train de participer, ici au Bellevue Palace, organisée par la Société Suisse de Public Affairs, on est là autour d'une table haute avec Varuna Singh et Florence Schurch, qui toutes les deux sont lobbyistes pour le canton de Genève. Eh bien, ce moment-là, ça vous sert aussi à faire du réseautage?
Oui, déjà, pour connaître ses confrères et ses consoeurs, parce que la profession a quand même beaucoup gagné en importance numérique depuis une vingtaine d'années. Ce qui est vrai, c'est qu'ici, on a les lobbyistes pleinement assumés, puisqu'on est membre de la Société Suisse de Public Affairs. Et puis, pour en être membre, il faut respecter un certain nombre de règles de transparence. Ceux qui ne sont pas membres de cette société, par définition, ne sont pas tenus aux mêmes règles.
Il y a la Migros qu'elle a, il y a Swisscom qu'elle a, il y a des lobbyistes privés, une grande entreprise, Forêt Rougi qu'elle a, monsieur Rougi.
Il y a Novartis.
Vous voulez qu'on vous présente Novartis?
Ok.
Toi, tu le connais, moi je ne le connais pas.
Peter Hubin, Véronique Marty.
Vous êtes lobbyiste?
Moi, je suis head du public affairs chez Novartis.
Donc vous êtes à la tête des affaires publiques de Novartis.
Affaires publiques, c'est plus joli que lobbyiste.
Pour Novartis, la session, ou disons la législature qui commence, à quel enjeu d'importance?
Naturellement, c'est toujours les affaires correspondant aux services de santé, parce que les médicaments sont toujours en discussion. C'est les coûts des médicaments, c'est les discussions sur les prix des médicaments. Ça, c'est certainement les priorités. Et aussi la législation sur des Datenschutz.
Des données. Protection des données. Oui.
Là aussi, on a naturellement des intérêts parce qu'on voudrait utiliser les données qui ont été collectées dans des études cliniques. Et là, il faut une solution qui est assez libérale, de façon qu'on peut vraiment utiliser les données qu'on a créées.
Et ça marche bien? Le lobbying, ça marche bien?
Pour le moment, ça marche pas mal, parce qu'on est assez positif qu'on peut terminer les discussions sur la protection des données la semaine prochaine.
Je vais vous laisser manger, là. Qu'est-ce que c'est, là?
Tortilla.
Alu. Et là, le monsieur qui est là, je ne sais pas ce qu'il fait maintenant, mais c'est l'ancien conseiller personnel de Schneider Hamann. Mais alors, j'ai aucune idée quelle est son activité maintenant. Il y a plusieurs lobbyistes qui travaillent, qui changent tellement rapidement de boulot. Il y a une lobbyiste qu'on connaît, ça fait déjà le quatrième boulot qu'elle fait. À chaque session, elle arrive avec une autre étiquette. Alors, je ne sais pas si c'est en fonction des salaires qui changent tout le temps. Mais c'est vrai qu'on croit rencontrer quelqu'un pour quelque chose, puis il travaille déjà pour une autre entreprise, en fait. C'est le lobbyiste d'Amigo.
Enfin, c'était.
Ah, il bute,
non? Il est à la retraite, mais il reste intéressant, il a fini cet été.
Bonjour.
RTS. Il fait une émission sur le lobby.
C'est très dangereux.
Sur les techniques de lobbying, pas sur les dossiers, sur les techniques. Et comme tu as longtemps travaillé pour l'Amigo.
Vous avez longtemps travaillé pour la Migros?
Pendant 16 ans, oui. Beaucoup de sujets, politique agricole.
Comment vous avez vu évoluer le lobbying en 16 ans? Ça a beaucoup changé?
Oui, beaucoup changé parce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. Avant, à l'époque, il y a 30 ans, c'était la grande économie. Et maintenant, tu apportes toutes les branches, tu as un lobby. Hein. Il y a beaucoup plus d'associations, aussi petites associations. C'est professionnalisé.
Et vous trouvez bien que ça se professionnalise?
Oui, mais on va discuter un peu les standards, hein, et la transparence et tout ça.
Parce que le problème de la professionnalisation, ça peut aussi être que ceux qui ont beaucoup d'argent pourront faire beaucoup de lobbying, ouais. Et ceux qui ont peu d'argent, ils feront un petit lobbying.
C'est clair. Mais les nouvelles technologies sont aussi une chance pour les petits, pour le networking.
Le réseautage.
Oui, avec les nouvelles technologies, on peut beaucoup plus faire qu'avant, je trouve.
Alors, bon, vous n'aviez pas de souci parce que la Migros, c'est quand même un gros lobbying.
Non, non. On n'a jamais exagéré. Si on est trop dominant, c'est contre-productif, je trouve. C'est pourquoi le lobbying est une tâche assez difficile. Parce que si on est trop agressif, il y a des reproches. Et peut-être tu perds parce que tu es trop agressif.
Aussi trop si présent. Tu, si tu es trop présent. Présent
si tu fais trop peu, c'est aussi perdu. Hein? Alors, il faut trouver la balance.
Donc la conférence va commencer.
Alors.
On dit votre nom, on dit Thomas Gaze.
Oui. C'est un nom de crise.
Vous êtes le responsable de ce CAS, ce Certificate of Advanced Studies,
oui.
Donc de cette formation en lobbying et en affaires publiques.
Oui.
Vous-même, vous avez une pratique de lobbyiste?
Non, j'ai pas une pratique lobbyiste. J'ai étudié donc l'histoire. J'ai travaillé pendant mes études de doctorat dans la politologie. Et je me suis toujours intéressé entre le milieu économique et le milieu politique. Pour moi, c'était toujours clair. On peut pas comprendre toutes les relations politiques sans connaître donc les réseaux de l'économie. Le mot lobbying, surtout en Suisse allemand, a un goût pas très agréable. Oui, en allemand, on dit oui, ein Geschmäckle, c'est-à-dire ça sent pas très bon. Et tout d'un coup, je crois pour tout le monde, si on entend le mot lobbying, on voit déjà la personne avec un coffre plein d'argent et qui paye le politicien. Et je crois que c'est un peu naïf de croire que notre système politique, qui souffre aussi d'une certaine complexité, que toutes les questions se résolvent de soi-même. Il faut trouver des solutions et il faut une certaine expertise, il faut certaines personnes qui aident notre politicien dans le système milice un peu d'avancer. Et donc la formation, elle veut professionnaliser, bien sûr, elle veut motiver aussi des gens d'entrer dans ce secteur. Et je veux aussi donner donc un peu de courage aussi à mes étudiants qu'ils font quelque chose de normal. On n'est pas dans une économie de mafia. C'est tout à fait normal. Moi, je dis toujours, il y a des Unternehmensberater, des consultants. Dans l'économie, on a des consultants et personne dit qu'il ne faut pas ou bien qu'il nous dérange. Et moi, je dis, le lobbyiste, en principe, c'est un consultant pour les questions politiques.
En professionnalisant la branche, est-ce qu'il n'y a pas un risque, à savoir que les associations qui pourront se payer un lobbyiste professionnel auront plus de poids que celles qui ne pourront pas se payer.
C'est la question qu'on pose toujours. Est-ce que si on a suffisamment d'argent, si on peut plus ou moins acheter, donc un oui ou un non? Moi, j'y crois pas.
En même temps, il y a des groupements de personnes qui mettent beaucoup d'argent dans des campagnes. Donc, c'est bien que quelque chose peut se passer avec de l'argent.
Oui. Non, ça c'est clair, mais on vit dans un monde de capitalisme où ceux qui ont le capital ont aussi le pouvoir. Je crois en Suisse, c'est quand même un peu plus difficile de bouger les choses avec le porte-monnaie.
Est-ce que le lobbying est un métier d'avenir, Thomas Gaze?
Oui, je crois. parce que la politique devient toujours de plus en plus complexe. La politique va régler beaucoup de choses qu'on n'a pas réglées avant. Et c'est quand même un processus de communication. Peut-être le terme lobbying va disparaître, mais je crois il faut toujours les personnes qui aident aux politiciens un peu de prendre les décisions. Eux, ils n'ont pas une idée, ils ne savent pas comment. Pour ça, il faut les lobbyistes qui leur expliquent et qui font le boulot.
Ça va comme ça ?
Très bien. Qu'est-ce que vous dites quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, Sakrat Tomizawa ?
Alors, ça dépend peut-être un peu du public avec lequel je suis. C'est vrai que quand on dit « je suis lobbyiste », ça peut choquer certains. J'ai eu des fois des réactions assez vives. Donc selon les publics, je fais peut-être un petit peu plus attention, mais je regrette de devoir faire ça, parce que je trouve que c'est un métier qui a de l'importance. C'est un métier d'influence, puis l'influence a un rôle à jouer dans notre démocratie. Donc je trouve un peu dommage de devoir passer par là. Donc parfois, je dis que je travaille dans les relations publiques ou bien public affairs, on dit en anglais. Ça fait un peu mystérieux comme ça, mais en général, j'essaie toujours de revenir vers la question du lobbying et puis à expliquer le plus possible.
J'avais envie de parler avec vous, Sakrat Tomizawa, de la formation de lobbyistes, parce que vous êtes une des intervenantes pour le CAS, le Certificate of Advanced Studies, en public affairs. Tout ça est très anglophone, mais disons, cette formation pour les lobbyistes en Suisse romande, dont la deuxième volée a cours maintenant. Est-ce qu'on est en train de voir ce métier de lobbyiste changer du fait de sa professionnalisation ?
Alors aujourd'hui, il existe cette formation, il existe aussi d'autres formations. Hein. Moi, je donne aussi des cours à Genève, à la Haute École de Gestion. Il y a des cours aussi beaucoup privés qui se font dans des organisations qui donnent aussi des cours, des modules de lobbying. Alors, professionnalisation du métier, oui, certainement, parce qu'aujourd'hui, il y a justement des échanges et puis que c'est un métier qui prend un peu plus ses racines. Dans ce sens-là, oui. Mais je pense que ce qui évolue beaucoup dans la profession, c'est le lien justement à la reconnaissance et à ce que ça veut dire aussi au niveau de l'éthique du métier. Je pense que là, il y a quelque chose qui devient plus pointu et puis qui suit alors des trends qui sont au niveau international. Là, la Suisse fait plutôt office d'arrière-garde que vraiment d'être à la pointe de ce qui se fait dans le domaine.
Donc, qu'est-ce que vous dites aux étudiants ?
Je leur dis que l'influence a un rôle dans la démocratie. Je leur dis qu'il faut revendiquer cette influence, que c'est quelque chose qui est important parce que les thèmes sont devenus tellement nombreux, il y a un énorme volume d'informations, les éléments sont complexes et il y a vraiment un rôle à jouer. Donc j'essaye de leur faire comprendre ce côté-là et puis le côté vertueux du métier.
C'est vraiment devenu plus complexe ?
Oui, c'est vraiment devenu plus complexe.
Pourquoi ?
Les sujets sont devenus beaucoup plus complexes. Donc, sur des sujets donnés, on va aussi beaucoup plus en profondeur. C'est pas pour rien. Au niveau du Parlement, les commissions n'existaient pas. Après, c'était d'un moment. Maintenant, on a créé ces commissions pour qu'il y ait des parlementaires qui deviennent quelque part plus des spécialistes des domaines. À l'époque, tout le monde donnait son avis sur l'ensemble. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même la nécessité d'avoir une certaine certaines thématiques qui sont suivies par certains plutôt que d'autres. Donc ça montre aussi cette complexité qui a augmenté. Aussi au niveau du nombre, de la quantité d'informations, il y a beaucoup plus de
vacarme,
il y a beaucoup plus d'interventions parlementaires, il y a beaucoup plus de roulement quelque part dans le travail parlementaire et dans le travail aussi administratif. Donc oui, je pense que la complexité augmente.
Vous êtes très demandé.
Je vais juste l'arrêter comme ça. Ouais, là je vais avoir quelque chose d'assez urgent.
Peut-on fixer un cadre déontologique au métier de lobbyiste ? Est-ce souhaitable ? Est-ce réaliste ? Dites-le nous au 058 236 236 0. Comment garantir la démocratie dans un contexte où tant d'argent et tant d'énergie est consacré pour convaincre et faire pression sur les parlementaires ? 058 236 236 0.
Vacarme, Véronique Marty, Laurence Di Félix, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Didier Rossa.
Demain, pour conclure notre semaine de reportage sur la question des lobbies, nous rencontrerons trois hommes qui ont refusé d'adhérer à la SSPA. Ils revendiquent le droit de pratiquer leur activité de lobbyisme en toute discrétion. Parmi eux, un ancien diplomate, Thomas Borer.
C'est un atout si quelqu'un, un lobbyiste, défend ses intérêts avec vigueur.
Avec parfois le risque que les parlementaires se sentent agressés.
C'est un risque, mais c'est peut-être aussi parce que je suis dans ce métier depuis 30 ans. Je suis 1m85, déjà vieux, alors peut-être les plus jeunes qui ne me connaissent pas sont intimidés. Mais si on me connaît, on sait bien que je ne suis pas méchant.
Cavalier seul, un reportage que vous pourrez découvrir demain dès 13h.